au Polysécur, épisode spécial. Je suis accompagné avec Simon.
Bonjour.
Ça va bien?
Ben oui, ça va très bien.
Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie du projet de loi C-27. Dans le fond, la deuxième partie, mais la troisième partie de la loi elle-même, du projet de loi lui-même, qui adresse spécifiquement l'intelligence artificielle. Pour avoir lu ce volet-là, cette partie-là, pour un non-juriste, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que tu vas justement expliquer, puis peut-être m'aider un peu à mieux comprendre les implications du volet intelligence artificielle de ce projet de loi-là.
Oui, en fait, même pour un juriste, je dirais que la partie 3 du projet de loi C-27 qui propose l'édition de la loi sur l'intelligence artificielle et les données est un peu un objet juridique non identifié, considérant que c'est assez nouveau comme cadre juridique. Puis qu'est-ce qui vise à être réglementé est également un objet assez nouveau, soit l'intelligence artificielle. Donc, dans C-27, dans le précédent épisode, on en a parlé, là, on réforme la loi fédérale en matière de protection des renseignements personnels, inspiré du projet de loi C-11 qui était mort au feuilleton en 2020. Puis là, dans la partie 3, c'est une proposition nouvelle qui n'était pas dans C-11, qui est une nouvelle loi sur l'intelligence artificielle et les données qui vise à réglementer les systèmes d'intelligence artificielle qu'il traite ou non des renseignements personnels. Donc là, on est vraiment dans un cadre juridique spécifique à l'intelligence artificielle. Puis, c'est inspiré, du moins ça semble être inspiré d'une certaine manière par une proposition de législation en Union européenne qui est actuellement proposée, qui n'a pas encore été adoptée, puis qui est dans le parcours législatif, là, si on veut, du droit européen, qui est une très, très longue proposition, un peu à l'image du RGPD en Europe. Alors qu'ici, la loi sur l'intelligence artificielle et les données, l'IAD, est beaucoup plus courte, mais il y a beaucoup plus d'éléments qui sont confiés au pouvoir réglementaire, donc qui seraient à être précisés dans des règlements, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de chair autour de l'os là, de cette loi-là pour l'instant. C'est un petit peu difficile de voir précisément quelles seront ses conséquences, parce qu'il y a beaucoup qui seraient à venir en règlement si c'est adopté, mais n'empêche que c'est quand même assez intéressant de voir une première proposition de réglementation de l'intelligence artificielle au Canada. C'est quelque chose qu'on a entendu parler depuis plusieurs années. Là, il faudrait réglementer l'IA, c'est important de réglementer l'IA, puis les biais de l'intelligence artificielle et tout ça. Eh bien là, il y a une proposition qui est faite en ce sens-là. Reste à voir si ça va aboutir.
Oui, puis le point, parce que le premier point pour moi qui est important, pour comprendre, parce qu'il y a vraiment une distinction très importante entre la réforme sur la protection des renseignements personnels et c'est le volet intelligence artificielle, puisque le volet intelligence artificielle ne couvre pas seulement de l'information personnelle, mais couvre tout type d'informations qui ont un vocable assez particulier d'ailleurs pour le définir. Puis je pense qu'on ne sait même pas qu'est-ce que ça couvre vraiment encore. Là.
Oui, c'est ça. Ben, les définitions, c'est vraiment la clé là, pour comprendre à quoi les lois s'appliquent. Donc, en matière de protection des renseignements personnels, ça s'applique à des renseignements personnels, c'est-à-dire toute information qui peut identifier une personne physique. Donc, ça, c'est assez large. Ça peut englober un tas de données différentes. Là, ici, le champ d'application est un peu différent. En fait, on propose une définition de système d'intelligence artificielle. Là-dessus, il faut lever le chapeau au législateur fédéral, parce que s'il y a bien une chose qui est difficile à définir, c'est bien l'intelligence artificielle. Donc, on vise ici les systèmes technologiques qui, de manière autonome ou partiellement autonome, vont traiter des données liées à l'activité humaine par l'utilisation d'algorithmes. Puis là, il y a une différente liste d'algorithmes pour générer du contenu, faire des prédictions ou des recommandations ou prendre des décisions. Donc, définition large, je pense que je voulais pas trop précise pour pas exclure trop, mais en même temps, c'est un des risques si on vise des systèmes qui rentreraient peut-être pas dans notre conception d'intelligence artificielle, mais qui seraient réglementés ici. Donc, ça, c'est les systèmes qui visent à être visés. Puis, une autre chose, c'est que c'est l'utilisation de ces systèmes-là dans le cadre d'une activité réglementée cette notion-là vise à s'inscrire dans la compétence constitutionnelle du fédéral en matière de réglementation du commerce, parce que c'est en vertu de cette compétence-là que le gouvernement fédéral peut réglementer les notamment la protection des renseignements personnels, mais dans ce cas-ci également l'intelligence artificielle. Donc ici, cette activité réglementée-là, ça englobe tant la conception, le développement d'un système d'intelligence artificielle, mais également le fait de rendre disponible un système d'intelligence artificielle ou de rendre disponible des données qui permettent de traiter un système d'intelligence artificielle. Donc, on vise pas seulement le end user en bon français là, de l'intelligence artificielle, on vise un peu toute la chaîne, tant le concepteur que le fournisseur de données, que l'utilisateur qui l'utilise, même si c'est via une plateforme ou quelque chose comme c'est pas nécessairement lui qui a créé le modèle. Donc on cherche à viser un peu tous les acteurs du domaine de l'intelligence artificielle avec cette proposition là.
Ouais, puis on parle aussi de système à instance élevée qui est vraiment un trait aussi qui vient clairement et en même temps pas clairement parce qu'on sait pas vraiment la portée exacte de système à instance élevée, mais qui vient définir une portée qui est très différente d'ailleurs aussi de celle de la protection des renseignements personnels.
Oui, bien là, c'est ça. C'est que la majorité des obligations dans l'IAD sont qu'on vise les systèmes à incidence élevée. C'est-à-dire que si on a un système à incidence élevée, qui est une notion qui va être définie par règlement, donc pour l'instant, c'est pas vraiment possible d'identifier qu'est-ce qu'est un système à incidence élevée. Ben si on a si on gère ce type de système là, on a des obligations de faire une évaluation premièrement de notre système pour vérifier s'il est à incidence élevée et ensuite de prendre des mesures d'atténuation pour réduire les risques de préjudice que notre système pourrait causer sur les individus ou les biais qui pourraient être engendrés dans le traitement des données par notre système à incidence élevée. Et on doit également publier de la documentation pour démontrer notre transparence dans ces évaluations-là. Donc, c'est un peu, si on veut, le cœur de la réglementation proposée dans la loi. C'est une évaluation, des mesures d'atténuation, une tenue de registre, puis de la documentation. Ce serait tout ça lié au fait d'avoir un système à incidence élevée. Puis, sauf que cette notion-là, elle va être définie par règlement. C'est un peu une gradation selon le niveau de risque, ce qui est également proposé dans la proposition de législation européenne, d'où mon commentaire là, au début à l'effet qu'il y a une inspiration là ici, là, c'est-à-dire qu'on vise les systèmes d'intelligence artificielle, mais on met plus d'obligations sur ceux qui ont une incidence élevée, ceux qui ont une incidence moins élevée, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, elle est partout dans nos vies, là, elle est dans surtout avec une définition large comme celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. Ce type d'algorithme qui nous aide à prendre des décisions, là, ça peut viser le contenu d'une calculatrice, là. Donc, on s'entend que la notion d'incidence élevée, je pense, va être très importante. Et ça, par contre, ça va venir pas à l'adoption du projet de loi, ça va venir à l'adoption du règlement qui va suivre l'adoption du projet de loi. Donc, c'est pas non plus à la veille d'arriver.
Oui, puis on voit aussi une autre distinction importante, contrairement à la loi sur la protection des renseignements personnels, qui a une application qui peut être appliquée dans les provinces qui n'ont pas une loi équivalente. Celle sur l'intelligence artificielle, elle n'a pas cette notion-là de choses où elle laisse les provinces un peu plus libres d'agir comme ils veulent.
Oui, c'est un point d'interrogation un peu en lien avec cette nouvelle loi-là, parce que contrairement à la loi de protection des renseignements personnels au fédéral, donc PIPEDA là, en anglais, qui est maintenant réformée pour être la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, cette loi-là, clairement, si une province n'a pas adopté une loi reconnue comme étant essentiellement similaire, elle va s'appliquer dans la province. Ce mécanisme-là n'est pas prévu dans l'IAD, donc ce n'est pas, et considérant que la loi vise des activités réglementées qui tombent sous la gestion du commerce là, par la compétence fédérale, par le Parlement fédéral, c'est pas clair si le fédéral a une intention d'aller réglementer l'utilisation d'algorithmes à l'intérieur des provinces. Mais en même temps, quand on parle d'objets abstraits comme l'intelligence artificielle, les traitements de données, souvent, c'est dur d'affirmer que non, nous, notre algorithme fonctionne uniquement à l'intérieur du Québec en ce moment. Là, il y a aucune. Il est mis dans une boîte, là, puis il n'y a rien, il n'y a aucun intrant, il n'y a aucun extrant qui va à l'extérieur qui passe de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Là, c'est un petit peu difficile à dire comme ça. Alors, est-ce que ça va devenir un peu la ligne directrice, le même pour les provinces? Probablement, à moins qu'il y ait des provinces qui veulent adopter leur propre législation en la matière, ce qui pourrait être le cas. Mais comme on est vraiment en territoire nouveau ici, là, ça serait quand même, je pense, quand même étonnant.
Oui, ben ça va être intéressant de voir comment ça va se faire. De toute façon, le projet de loi va être à l'étude cet automne, fait que ça va sûrement évoluer pour les différents intervenants qui vont justement contribuer. Il y a beaucoup aussi d'aspects sur la transparence puis le pouvoir du ministre par rapport à ça qui est puis la nomination d'un commissaire spécifique aussi, qui sont quand même trois aspects très, très curieux, que je trouve très curieux de ma part. Là.
Oui, ben il y a effectivement plusieurs pouvoirs qui sont conférés au ministre. Il y a également un régime de sanctions qui est introduit un peu à l'image de ce qu'on retrouve dans la proposition de C-27 en matière de protection de la vie privée des consommateurs, là, l'autre loi. Pour ce qui est de la question de la transparence, il y a deux obligations distinctes. Il y a une obligation qui vise plus l'utilisation prévue du système, puis une autre qui vise plus l'utilisation réelle du système. Pas encore tout à fait clair là, qu'est-ce qui va devoir être mis, mais on parle ici de publier des documents en langage clair sur un site web de la personne qui gère l'exploitation d'un système ou d'une personne qui rend un système disponible pour des utilisateurs, donc un concepteur ou un utilisateur qui va l'utiliser. Ils vont avoir des obligations de transparence un peu différentes, mais les deux vont devoir publier de l'information en langage clair sur les types de décisions, les types de recommandations qui sont prises par le système, sur la façon dont le système est utilisé à l'interne, sur les mesures d'atténuation qui ont été prises en lien avec l'évaluation dont j'ai parlé plus tôt. Donc ça vise les systèmes à incidence élevée. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui va être un système à incidence élevée? C'est la grande question. Mais il y a également des obligations de transparence qui ne sont pas liés au système à incidence élevée, mais qui sont liés au fait de rendre disponibles des données anonymisées pour concevoir ou pour développer ou pour être utilisées dans des systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est encore plus large comme obligation parce qu'en fait, ça vient viser les jeux de données qui pourraient éventuellement être servis dans l'entraînement en intelligence artificielle. Et dans ce contexte-là, il va y avoir une obligation d'expliquer un peu la manière dont les données ont été rendues anonymisées, comment est-ce que l'organisation utilise ou gère ces données anonymisées-là qui sont destinées à l'intelligence artificielle. Donc ça va s'appliquer nonobstant le fait qu'on est dans un système à incidence élevée. Puis ça pose également certaines questions là, parce que on sait que en matière de protection des renseignements personnels, donc sous les lois actuelles et la proposition de loi dans C-27, les données anonymisées sont exclues du champ de la loi. Donc, même dans les obligations de transparence, comme on doit dire clairement on utilise vos renseignements personnels, on a une politique de confidentialité qui décrit toutes nos différentes activités avec les renseignements personnels. On n'a pas besoin de faire preuve de transparence à l'égard des données anonymisées parce qu'elles ne permettent plus d'identifier un individu, donc elles sont exclues du champ d'application de la loi. Mais ici, sous l'IAD, on a des obligations de transparence pour ces données anonymisées-là, sauf qu'on n'a pas non plus de définition de données anonymisées. Donc, c'est un peu un casse-tête. Si on prend des renseignements personnels, on les anonymise comme selon la définition de la loi, ils sont exclus de la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs. Mais ils vont encore avoir certaines obligations si on les utilise dans un contexte pour entraîner l'intelligence artificielle. Donc, ça s'enligne pour être un peu ça la logique. Je pense que ça va devoir être précisé, puis il va sûrement y avoir des questions là-dedans, ne serait-ce que de savoir est-ce que les données anonymisées sous l'IAD sont les mêmes. Est-ce que la définition, est-ce que elle cadre dans la définition de renseignements personnels anonymisés sous la nouvelle loi sur la loi de la protection de la vie privée des consommateurs qui est proposée, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent puis on vise autre chose ici? Donc, bref, il y a de l'incertitude à ce niveau-là parce que c'est une obligation qui aurait une portée encore plus large que la majorité des obligations qui visent des systèmes à incidence élevée. Donc ça, ça va devoir être précisé. Puis en plus, justement, comme tu l'as fait référence, le ministre a des pouvoirs importants là, en lien avec toute obligation qui ne serait pas respectée. Là. Donc, il peut ordonner que l'organisation cesse d'utiliser le système d'intelligence artificielle. Il peut également demander des audits sur les jeux de données ou à l'intérieur des organisations. Il peut demander de la documentation sur comment les données ont été anonymisées, comment le système d'intelligence artificielle a été évalué, quels types de mesures ont été prises pour atténuer le risque. Donc, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises. Il peut également nommer un commissaire à l'intelligence artificielle pour, j'imagine, l'alléger dans ses pouvoirs, là, parce que ça serait quand même étonnant que ce soit le ministre de l'économie et de l'innovation, là, François-Philippe Champagne, qui fasse toutes ces demandes-là par rapport au système d'intelligence artificielle. Donc, peut-être que le rôle de commissaire va être intégré. Puis là, encore, ça pose la question. On a un commissaire à la vie privée qui existe. Sous la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, on a également un nouveau tribunal sur l'intelligence artificielle et les données qui va être créé pour administrer les sanctions administratives. Puis là, sous l'IAD, on aura un nouveau commissaire à l'intelligence artificielle et aux données. Puis là, il y a des nouvelles sanctions administratives sous l'IAD, mais ce n'est pas précisé que c'est le tribunal de l'autre loi qui sanctionne ces sanctions-là. Donc, parce que ça, c'est les sanctions sous l'IAD sont à être déterminées par règlement. Donc, il semble y avoir une volonté de multiplier un peu les instances et les structures, qui va tirer son épingle du jeu là-dedans, parce que pour l'instant, c'est quand même assez clair. Là, il y a un commissaire au fédéral, on a des commissaires dans les provinces, puis c'est eux qui réglementent, qui cherchent à appliquer la loi. Là, avec le C27, là, on a vraiment plusieurs nouveaux chapeaux là, qui vont être introduits. Là.
Bon, c'est intéressant de voir ça. L'étude du projet de loi aussi va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Y a-t-il des volets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais qu'on discute?
Ben, en fait, je dirais simplement que pour faire un peu le pont là, sur les sanctions, là, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut faire peur, là, un peu à l'image de qu'est-ce qu'on a eu avec le projet de loi 64, puis là maintenant c'est 20, ben, dans le temps c'est 11, puis là maintenant c'est 27. Dans l'IAD, il y a également des sanctions administratives pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à un montant assez élevé, en fait, là, puis des nouvelles amendes qui peuvent également aller jusqu'à 10 millions de dollars, 3 % du chiffre d'affaires, puis qui peuvent même aller jusqu'à 5 % dans certains contextes, jusqu'à 25 millions de dollars dans certains contextes. Donc, on est vraiment encore une fois dans des études de très hauts chiffres, là. Je pense que 10 millions puis 3 % c'est pour les sanctions administratives, puis 25 millions, 5 %, ce serait pour les amendes pénales, qui sont des régimes différents. Mais n'empêche qu'on voit une volonté là, du législateur fédéral de sanctionner des utilisations puis des traitements faits avec l'intelligence artificielle qui causent des préjudices aux individus. Donc, clairement, il pourrait y avoir des conséquences importantes. Je pense qu'on est loin d'être rendu là, même quand on est quand des lois sont adoptées, comme au Québec, par exemple, avec des nouvelles sanctions, puis celles-ci rentrent en vigueur bientôt, on sent qu'il y a quand même une volonté là, de conformité avant de punir et de sanctionner, j'ai l'impression. Donc, je ne pense pas qu'il faut non plus partir en peur tout de suite. Je pense que c'est important de savoir que, clairement, une des intentions du législateur avec ça, c'est que l'entreprise puisse être sanctionnée là, durement si... Elles font n'importe quoi avec l'intelligence artificielle, là, comme on a pu voir dans certains scandales, Cambridge Analytica, Clearview AI, des choses comme ça. Donc, je pense que ça, c'est important de garder ça en tête.
Très intéressant. Fait qu'on va conclure là-dessus. Je te remercie encore une fois. Ça a fait un tour d'horizon très intéressant de ce projet de loi-là. On va sûrement se reparler quand il va être adopté. Puisque ça va avoir des conséquences et probablement entre le projet de loi et la loi, souvent il y a des différences parce que l'étude de la loi amène à des remises en question, des améliorations, des fois des moins bonnes améliorations, tout dépendant comment les choses tournent en commission, mais on verra. Fait que merci beaucoup.
Ça fait plaisir, oui, j'ai pas de doute qu'on va s'en reparler.